terminer et commencer la semaine, écoutez Cyril Ekuala et son équipe. Né au Québec tous les dimanches de 13 à 15 heures sur CIBL.
Devant vous, j'annonce publiquement mon départ de la direction de l'équipe RBP. Je quitterai mes fonctions le 30 juin prochain. Après plus de 28 ans d'engagement dans la communauté de RDP, c'était ma vie, c'était ma passion, c'était le meilleur de moi. L'équipe RDP reste pour toujours gravée dans mon cœur. J'ai été béni d'avoir pu servir avec autant de flamme, de passion et de longévité.
Ces paroles que vous venez d'écouter sont celles du fondateur d'Équipe RDP, un organisme d'aide et d'accompagnement auprès des jeunes de Rivière-des-Prairies. Après 28 ans d'engagement et d'implication, son fondateur et directeur quittera ses fonctions, comme vous l'avez entendu, en juin prochain. Cette annonce a été une surprise pour beaucoup, mais alors je dis beaucoup de personnes. Pendant 11 minutes, avec chaque mot bien choisi, bien senti, chaque mot à sa place, Pierson Vaval a parlé avec beaucoup d'émotion de ce qui a été, comme il le dit si bien, le moteur de sa vie, on s'entend jusqu'ici. Il a parlé de son implication au sein de l'équipe RDP. Pierson Vaval est mon invité, il est en face de moi. Bonjour.
Bonjour.
Commençons par le début. Beaucoup, 11 minutes, j'ai entendu beaucoup de choses, sauf une chose, et c'est par ça que je veux commencer. Pourquoi partir d'équipe RDP?
Alors, première des choses, merci de me donner l'opportunité de pouvoir parler avec ton auditoire et puis de remercier la communauté surtout pour toutes ces années. 28 ans, c'est quand même considérable. C'est rare qu'on a des acteurs qui sont impliqués de la fondation d'une organisation et qui perdurent et gardent la flamme et l'envie de s'engager pendant toutes ces années. Alors, c'est une bénédiction pour moi et il y a la communauté qui a été avec moi dès le début jusqu'à la fin. Alors, pour moi, c'est premièrement de remercier. Il est clair pour moi que c'était très important de m'assurer que Équipe RDP soit toujours dans mon esprit comme un outil, un levier qui ne m'appartient pas, qui appartient à la communauté. C'est un devoir sacré pour moi toutes ces années-là de m'assurer que je fasse tout ce qui est à mon possible pour faire de ce levier quelque chose d'efficace, quelque chose qui a un sens pour la communauté. Aussi, c'est important pour moi de m'assurer que le jour où ce que je vais décider de partir, mais que je laisse quelque chose, un levier, un outil intéressant de développement pour la communauté. Des as se sont enlignés où ce que j'ai senti que, bon, Il n'y a pas de bon moment, en réalité, pour partir. Mais je sentais aussi que, quelque part, je voulais faire autre chose. J'étais dans un contexte où ce que je sentais que j'avais accompli ce que je devais accomplir avec cette organisation-là, dans le contexte de travail ou d'intervention locale, quelques actions régionales. Et je me disais, bon, ce serait bien que je me lance. Ce serait bien que je plonge. Des fois, c'est risqué. Des fois, on se dit, ben là, tu sais pas trop où est-ce que tu vas t'en aller, puis ainsi de suite. Mais pour moi, j'ai confiance que où est-ce que j'irai, je vais continuer, comme je discutais avec tes collègues là pendant la pause, continuer le combat, continuer le travail, mais autrement et ailleurs. Je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire dans le communautaire. Je pense qu'il y a d'autres combats à mener ailleurs, dans d'autres sphères, pour faire avancer la cause. Et je pense que je peux être utile là. Et je pense qu'il y a une équipe qui est capable de continuer à faire avancer le bateau. Alors, pour moi, ces éléments-là m'ont convaincu que c'était le moment.
Je dois poser une question. Est-ce qu'il y avait une lassitude chez toi?
Bon, c'est sûr que, je parle honnêtement là, avec toi, c'est sûr que après 28 ans, dans le domaine du communautaire, qui est un domaine où ce que, quand même, il y a un grand roulement. Les gens viennent, restent 2 ans, 3 ans après ça. De rester là 28 ans, tu as vu des générations d'intervenants passer devant toi.
Et même c'est sûr des, qu'un des jeunes que tu sers.
Exact, exact. Et à un moment donné, tu te dis, ben, il va falloir que tu laisses le milieu s'imprégner de l'environnement, mais pas de toi. Parce que tu es là depuis tellement longtemps que tu deviens l'environnement. Et c'est là qu'il y a un piège. À un moment donné, tu es assis, tu écoutes les gens parler, mais toi, tu es là depuis tellement longtemps, tu connais les tenants aboutissants de tout. Et là, quand tu parles, tu as tellement d'influence que, bon, tu sembles prendre beaucoup de place. Tu ne laisses pas nécessairement la place aux gens de s'imprégner du milieu, de faire des erreurs, de prendre leur expérience, et ainsi de suite. Là, il y a quelque chose qui me disait, personne, ce serait plus sage de laisser le milieu prendre en charge le milieu. Toi, tu as laissé une marque indélébile. Tu as influencé le développement. Maintenant, laisse le milieu s'approprier. Qu'est-ce qu'il y a à s'approprier dans ce qu'on a développé? Et sois là pour conseiller, sois là pour donner, parler de ton expérience, mais redonne à la communauté.
Dans ce discours, mais quand on dit un discours, on pense vraiment à quelque chose de très, très, très préparé. Mais là, tu parlais quand même, oui, c'était écrit, mais avec le cœur. Il y a des axes que j'ai retenus. Tu as dit, RDP est né. Au moment où tu t'en vas, RDP a donné de l'espoir. RDP a mobilisé des acteurs de changement. RDP a inspiré des collectivités, a proposé des alternatives concrètes, a même fait émerger des solutions qui ont changé la vie de plusieurs citoyens. Parmi celles et ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, il y en a qui ne te connaissent pas. Il y a 28 ans, Pierson, quand tu t'impliques, RDP, l'environnement dans lequel tu vas t'impliquer, en deux, trois mots, il ressemble à quoi?
Ben c'était un environnement qui m'interpellait en tant que citoyen, parce que j'habitais le quartier. Et aussi, je me faisais approcher par des jeunes, des voisins qui vivaient dans la coopérative d'habitation que j'habitais quand j'étais chez mes parents. Et je voyais dans leurs yeux et dans leurs propos une certaine inquiétude par rapport à leur avenir dans la communauté, dans leur avenir dans le quartier, et aussi un désir de trouver des réponses à leurs aspirations puis à leurs besoins. Je voyais aussi une espèce de fermeture, une espèce d'intolérance par rapport à nos jeunes noirs, nos jeunes racisés. Et je voyais des dangers en lien avec le développement du quartier autour de la question du vivre ensemble.
OK.
Et c'est ça qui m'a poussé, premièrement, à prendre le temps d'accompagner les jeunes, de rentrer dans leur monde, comme je l'explique, pour être capable de bien circonscrire, bien comprendre leur environnement et ensuite essayer d'apporter des solutions. Et comme je l'ai expliqué dans le discours, je suis tombé sur des acteurs, des décideurs qui, eux aussi, voyaient comme moi que des changements étaient nécessaires. Et la connexion a été telle avec ces acteurs-là qui sont devenus des amis, une complicité telle qui nous ont lancé, qui nous a lancé dans un espèce de changement là, à tous les niveaux, que ce soit à l'école, que ce soit dans les services municipaux, au niveau du travail, du service de police. Alors, tout pour voir de quelle façon qu'on pourrait changer les paradigmes dans le quartier qui nous emmenaient socialement nulle part pour nos jeunes. Mmh. Et j'ai été tellement content de voir cette ouverture et de voir la capacité que le milieu avait d'être mobilisé, d'être disponible et pour réaliser ces changements qui n'ont pas été faciles. Il y a eu beaucoup, beaucoup de résistance. Mais quand on est un groupe, quand on est des agents de changement, quand on est convaincu du travail qu'il doit être fait et qu'on agit avec persistance, avec constance, les changements sont provoqués.
Tu anticipes, c'est même peut-être la réponse à ma question. J'allais te demander, 28 ans d'implication comme telle, c'est un sacerdoce, c'est un...
C'est un vœu de chasteté professionnelle.
Non, mais le rire que ça provoque, comment on tient? Qu'est-ce qui t'a amené à tenir tant d'années dans un milieu qu'on sait quand même difficile, Pierre?
Mais tu sais, moi je crois que n'importe qui ici aurait vu ce que j'ai vu, aurait le privilège que ce que j'ai vécu serait resté. Parce que j'ai vécu tellement de belles choses. Quand tu vois, par exemple, tu arrives dans une école, on t'ouvre la porte, on te dit on a besoin de toi, on veut que tu viennes chaque jour pour nous aider à accompagner les jeunes de l'école, on te donne un bureau, puis on voit la résistance là. Mm-hmm. D'autres politiciens qui posent des questions à l'école, comment ça se fait que tu donnes tes clés ou ton code d'alarme à des Noirs? Et la direction, qui nous sommes fiers de donner nos clés à des Noirs de la communauté pour qu'ils s'impliquent dans l'école, qu'ils deviennent des modèles de proximité pour nos jeunes. Fait que quand tu entends des choses comme ça, et tu sais comment, quel paradigme tu évolues, mm-hmm. et tu sais comment que les choses se passent ailleurs, là, tu te sens privilégié. Et ça te permet encore de, finalement, d'avoir la force et le courage de passer à travers l'adversité parce que tu n'es pas toute seule, parce que tu es soutenue, parce qu'il y a des gens à côté de toi qui ont décidé de te soutenir, puis de t'accompagner, puis d'être impliqué dans le combat comme toi. Alors, ça, je l'ai vécu à plusieurs niveaux et je dis que ça m'a gardé. Le deuxième élément, c'est mon amour pour les jeunes. Je ne sais pas, mm-hmm. je suis comme ça.
C'est peut-être ce que j'attendais.
Ouais, l'amour des jeunes et aussi la capacité qu'ils ont d'être authentiques. Un jeune ne va pas jouer de jeu avec toi. Il va se montrer qui il est tout de suite. Il va s'attendre la même chose que toi. Il ne veut pas de dissimulation, il ne veut pas que tu passes par quatre chemins. Lui, ce qu'il veut, il veut savoir qui que tu es. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Comment tu peux apporter une solution des enjeux qu'il vit? Et ça, je l'ai peut-être gardé de ma jeunesse, cette espèce d'authenticité qui est un petit peu juvénile, mais je crois qu'il fait la force de la personnalité d'Équipe RDP et tous ses intervenants et qui nous permet d'être en relation puis développer des liens privilégiés rapidement avec les jeunes puis de les garder dans le temps. Cette même complicité-là des jeunes d'il y a 28 ans qui aujourd'hui ont 40 ans, qui aujourd'hui ont 35 ans, 30 ans, ils l'ont gardé avec nous. Également. Mmh. Puis, ça leur permet aussi de comprendre qu'ils ont un rôle à jouer en tant que jeunes racisés, en tant que jeunes noirs, pour aussi les générations futures. Alors, ce qu'ils ont vécu, comment ils peuvent eux aussi redonner à la communauté. Alors, c'est pour ça qu'on a une organisation qui n'a pas de difficultés dans son recrutement de personnel, dans son recrutement de bénévoles, et ainsi de suite, parce que on a développé une passion de l'engagement chez les jeunes. Leur faire comprendre que ça fait la différence. Quand tu penses à ton prochain, quand tu penses à la personne qui est à côté de toi et tu t'engages pour faire la différence pour cette personne. Mmh. Et ça donne des beaux résultats, ça change les choses dans la communauté. Un autre élément que je suis vraiment fier, c'est de voir des jeunes noirs dans la communauté qui jouent un rôle significatif pour l'ensemble de la population. 28 ans, ces jeunes noirs étaient perçus comme une nuisance, étaient perçus comme un danger pour le développement de la communauté.
Tout
aujourd'hui,
entière.
Exactement. Mmh. Aujourd'hui, de les voir être embauchés, travailler pour nous, travailler pour d'autres organisations, travailler pour des institutions, les jeunes qui animent les camps d'été. C'est sûr que nous, quand tu regardes un petit peu là, le profil de notre personnel, 90% c'est des jeunes racisés. Mm-hmm. Mais moi, c'est ma fierté de voir ça. Mm-hmm. Je les regarde là, les camps d'été, 80% des employés, c'est des Noirs. 50% de la clientèle est noire. Alors, les gens viennent chercher, ils apprennent à interagir avec les jeunes racisés du secteur. Alors pour moi, ça a l'air un petit peu anodin pour les gens, mais pour moi, c'est vraiment la différence parce qu'on a vraiment changé les paradigmes par rapport à la perception de ces jeunes-là dans la communauté de Rivière-des-Prairies. Mmh.
Je veux qu'on avance un peu dans le temps. Il y avait, chaque fois que j'étais vu sur une tribune, quelle qu'elle soit, tu avais toujours le même plaidoyer, c'était plus de moyens pour accompagner les organismes, plus de moyens pour accompagner les organismes. Et je pense qu'aujourd'hui, avec 28 ans d'engagement, tu as l'autorité, comme ça ne se discute pas, tu as l'autorité pour parler du milieu communautaire. La question, qu'est-ce qui ne va pas avec le communautaire au Québec?
Ben, c'est sûr qu'une société comme...
C'est bon, là, parce que le ministre nous écoute. Hein. Oui. On vient de le dire ça.
Ah, oui. Ouais. On le salue.
C'est que dans une société comme le Québec, le milieu communautaire joue un rôle de première et de dernière ligne. Et on est toujours la réponse lorsqu'on ne trouve pas de réponse ou lorsqu'on n'a pas encore trouvé de réponse. Okay? Et souvent, on doit se battre pour dire qu'on a une réponse. Mm-hmm. Puis on doit se battre pour dire qu'il y a quand même une réponse. La proximité entre le milieu communautaire et les décideurs, c'est un combat de tous les jours. Parce que c'est un milieu qui est très, très, très proche de la communauté. C'est un milieu aussi qui est diversifié. Il y a toutes sortes d'actions, toutes sortes d'organisations. Puis, c'est un milieu aussi qui évolue au rythme de la communauté. Alors, nos institutions, c'est des grosses machines qui sont lourdes, qui ont de la difficulté à s'adapter. Alors, c'est très difficile d'être capable de développer des liens avec ces différentes structures qui te permettent d'être efficace dans le temps. Alors, ça demande une certaine agilité, ça demande une certaine persistance, ça demande de développer des liens stratégiques avec des acteurs du politique qui sont capables d'influencer ces systèmes et leur donner plus de flexibilité ou des fois les forcer à avoir plus de flexibilité. Et vu qu'on travaille avec des minorités, quand on parle de racisme systémique, mm-hmm. ben, nos systèmes ne sont pas adaptés aux besoins et aux caractères, aux particularités de nos communautés. Nous avons le devoir comme communautaire de faire entendre ces voix. Nous avons le devoir comme communautaire de faire entendre aux décideurs qu'il faut autant de ressources que pour les autres. Et les autres, je dirais la majorité. Nous devons être aussi bien desservis dans nos particularités, dans nos identités, par nos services publics et nos différentes institutions. Et ça, le communautaire est prêt et a le devoir d'accompagner les structures de nos gouvernements pour qu'ils soient capables de réussir à travailler dans cette approche de gestion de la diversité, là.
J'ai encore deux, question sur, bah, maintenant tu as dit que tu partais, j'ai deux questions sur l'avenir, mais à l'oreille, là on est en train de me taper parce que on va faire une pause. CIBL.
CIBL 105.
Voilà, vous écoutez toujours Néo-Québec sur CIBL 101.5 FM. Nous sommes accompagnés de Pierson Vaval. Alors, je dois dire, futur ex-fondateur de équipe RDC. Quoi qu'il le restera à vie
RDC,
quand même.
RDC, Cyril?
J'ai dit RDC? Non, oui.
Je voulais le relever parce que c'était trop bien.
Désolé, équipe RDP, mais quoi qu'il le restera quand même à vie, parce que comme il l'a dit, c'est vraiment c'est sa vie en fait. Mm-hmm. Juste avant la pause, tu parlais d'une chose, du fait qu'on parlait du communautaire, mm-hmm. de la difficulté qu'il y a dans le communautaire, mais tu as commencé à amorcer, à aborder cet aspect-là, je ne dirais pas du moins les organismes qui travaillent avec les personnes racisées, mm-hmm. est-ce qu'elles vivent un double de doubles difficultés liées à leur
triple, quadruple,
ouais.
Parce que le système démocratique qu'on vit va favoriser la prise en compte des besoins de la majorité. Mm-hmm. On vit quand même dans un environnement où ce que le milieu communautaire est structuré majoritairement pour répondre aux besoins de la majorité aussi, là.
Tout à fait.
Alors, quelque part, c'est un combat qu'on doit mener dans ce milieu. Le milieu est précaire de nature. Alors, pour nous, il va l'être encore davantage parce que nous avons moins d'accès, nous avons moins de voix, nous avons moins de poids, nous avons moins de poids politique. Alors, c'était très clair pour moi dès le début que l'existence d'Équipe RDP ou la subsistance de notre action ou le type de notre action allait dépendre de quel genre de relation que j'allais avoir avec les décideurs pour s'assurer que le besoin de nos jeunes reste d'actualité dans leur esprit, indépendamment de leur groupe politique. Mm-hmm. Bon Dieu a fait qu'on a réussi à développer des bons liens avec le milieu politique de par les appuis des décideurs du secteur qui indiquaient toujours que ben, cette organisation-là, il faut s'assurer qu'elle ait les moyens d'eux parce que le développement du secteur en dépend. Alors, pour moi, si on n'arrive pas à ce genre de posture, c'est sûr que là, on devient encore plus vulnérable que l'organisme communautaire moyen, entre guillemets, issu de la majorité. Mmh. Alors, nous, on l'a réussi, mais c'est un équilibre qui est très difficile à maintenir parce qu'il faut que tu sois de tous les combats. Il faut que tu réussisses à garder l'intérêt des médias pour ta mission, des médias pour ton orientation. On a réussi à le faire en faisant du spectacle que les médias faisait du méfait de nos jeunes, mais on a fait un spectacle des choses positives qu'on pouvait faire avec nos jeunes.
Très intéressant, ça, comme ce que tu dis et comme approche, ça demande vraiment, c'est très intéressant que les gens qu'on réfléchisse là-dessus. Faire mm-hmm. des spectacles, des méfaits que les médias faisaient. Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment très intéressant, ça.
Donc, parce que sinon, tu vas pas avoir un intérêt continu. Mm-hmm. On va t'oublier. Et puis, dans le rythme de nos communautés où ce que les choses arrivent, donc un problème emmène un autre, il emmène un autre, emmène un autre. Donc, il faut toujours se renouveler, toujours être au bon endroit, toujours poser les bons gestes publics, privés, directement auprès de la communauté pour toujours rester d'actualité mmh. ou à propos dans ce qu'on fait. Et puis, une chose, des fois, ça devient un petit peu compliqué, là, qu'est-ce qu'on dit, là? Mais il faut être connecté sur la communauté.
Très important.
De vivre au rythme de la communauté et son évolution. Parce que pour nous, c'était ça le danger. Je me souviens au début, il y avait des décideurs qui émettaient des doutes sur l'appui qu'ils devaient nous donner parce qu'ils disaient « Ah, ben c'est un organisme qui va mourir. Ça ne vaut pas la peine. »
Tout à fait.
Fait qu'est-ce qui nous a empêchés de mourir, c'est qu'on a suivi nos jeunes, on a suivi le rythme de la communauté, son évolution. Alors, c'était très important qu'on soit à propos il y a 28 ans et qu'on le soit à propos pour les jeunes en 2023. Mmh. Alors, ça, c'est une culture, c'est des réflexes et c'est une certaine ouverture pour que tu sois capable vraiment de fédérer tout le monde et de t'assurer d'être en mesure de mobiliser tous les acteurs nécessaires et la communauté.
Pierson Vaval, je vais me permettre, au nom de beaucoup, et je suis sûr que je ne fais pas mal en le disant, de saluer, d'applaudir ton implication, d'applaudir ton engagement après ton annonce, qui, je le rappelle encore, a été une grosse surprise. Il y a eu beaucoup de réactions. Passé la surprise, ça a été « Oh, qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, qu'est-ce qui se passe ?» ainsi de suite. Ça montre quand même que tu as laissé ton empreinte dans ce milieu-là. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. L'avenir, c'est quoi?
Ben, c'est sûr que je veux continuer à faire le combat ailleurs parce que je vois les limites du communautaire, les limites de cette structure. Et des fois, il y a des choses qui te frustrent, des choses qui avancent pas, qui changent pas, mais c'est parce que peut-être que tu es pas dans l'environnement où ce que ça se décide. Donc, il va falloir changer d'environnement et il va falloir aller dans d'autres lieux où ce que on pourra continuer à avoir une influence positive. Positif pour la communauté, positif pour nos jeunes, positif pour les jeunes racisés, positif pour la communauté noire. Et c'est sûr que je laisse les portes ouvertes en toutes les propositions, on m'en fait. Je vais voir, je ne vais pas prendre de décision précipitée. Je vais y réfléchir. Les choses qui m'intéressent sont bien sûr la sensibilisation, l'information, l'accompagnement, le coaching. La politique, oui, c'est un élément qui m'intéresse, que je sais que j'ai certaines habiletés à force de travailler avec les politiciens.
C'est ce que j'ai cru comprendre par l'environnement qui décide, mais je voulais que tu termines tranquillement. Eve a regardé, elle a dit, ça y est.
En fait, c'était vraiment ça, si tu me permets, j'allais te dire, parce que moi, J'ai eu ce déclic-là et j'ai fait un choix politique en 2018 d'aller de l'avant parce que, aussi, après des années d'implication, je voyais justement les limites de l'implication communautaire. Je voulais tenter d'autres stratégies pour aller. Donc, c'était ma question. Est-ce que je te vois aux prochaines élections et lesquelles? À quel palier? Qu'est-ce qui t'intéresserait?
On verra. Pour le moment, je dirais qu'on va prendre le temps de bien réfléchir. Puis aussi, il faut aussi que tu sois dans une posture ou dans une chaise qui te permette d'apporter une contribution. Je vais dire quelque chose, je pense que vous allez comprendre. Ce qui arrive, c'est que je vais partir, mais j'étais sur une chaise qui me permettait de réaliser beaucoup de choses, de générer beaucoup de changements. Je ne peux pas aller m'asseoir sur une chaise où je vais devenir spectateur.
Tout à fait.
Là, on aura tous perdu collectivement. Là. Mmh. Alors, ce n'est pas pour un parti, mais c'est pour la communauté on fait ça. Et puis, on va s'assurer que ce soit pour la communauté.
Pierson Vaval, merci. J'ai pas de mots pour te dire merci. Merci d'être venu nous parler comme tu l'as toujours fait avec le cœur. Peuple de Montréal, l'environnement qui décide. Suivons juste le monsieur. Et puis on va se reparler dans quelques jours. Merci beaucoup, Pierson. Et puis on se dit à bientôt. On va se voir.
Hein, puisque oui, certainement.
On va se voir.
Bientôt.
Et
on
puis bravo encore pour le travail à RDP.
Merci beaucoup.
Merci.